pas un mot !» Il s'effaça contre le mur, auprès de la porte. Le battant s'ouvrit. Lupin le referma violemment, bousculant un homme, un geôlier, qui poussa un cri. Lupin le saisit à la gorge. « Tais-toi, mon vieux !»« Si tu rouspètes, tu es fichu !» Il le coucha par terre. « Es-tu sage ? Comprends-tu la situation ? Oui ? Parfait. Où est ton mouchoir ? Donne tes poignets maintenant. Bien. Je suis tranquille. Écoute, on t'a envoyé par précaution, n'est-ce pas ? Pour assister le gardien-chef en cas de besoin. Excellente mesure, mais un peu tardive. Tu vois ? Le gardien-chef est mort. Si tu bouges, si tu appelles, tu y passes également. » Il prit les clés de l'homme et introduisit l'une d'elles dans la serrure. « Comme ça, nous sommes tranquilles. »«
De votre côté, mais du mien. »«
Et pourquoi viendrait-on ? » ?»«
Si l'on a entendu le cri qu'il a poussé. » »«
Je ne crois pas. »« Mais en tout cas, mes amis t'ont donné les fausses clés. »«
Ya, ya. » »«
Alors bouche la serrure. »« C'est fait ?» « Eh ben, maintenant nous avons pour le moins 10 bonnes minutes devant nous. »« Tu vois, mon cher, comme les choses les plus difficiles, en apparence, sont simples en réalité. »« Il suffit d'un peu de sang-froid et de savoir se plier aux circonstances. »« Allons, ne t'émeus pas, et cause. »« En allemand, veux-tu ? » ?»« Il est inutile que ce type-là participe au secret d'État que nous agitons. »« Va, mon vieux, et posément. Nous sommes ici chez nous. »
Stenveig reprit.
Le soir même de la mort de Bismarck, le grand-duc Hermann III et son fidèle domestique, mon ami du Cap, montèrent dans un train qui les conduisit à Munich, à temps pour prendre les rapides de Vienne. De Vienne, ils allèrent à Constantinople, puis au Caire, puis à Naples, puis à Tunis, puis en Espagne, puis à Paris, puis à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Varsovie, et dans aucune de ces villes, ils ne s'arrêtaient. Ils sautaient dans un fiacre, faisaient charger leurs deux valises, galopaient à travers les rues, filaient vers une station voisine ou vers l'embarcadère et reprenaient le train ou les pas.
Bref, suivi, ils cherchaient à dépister.
Un soir, ils quittèrent la ville de Trèves, vêtus des blouses et des casquettes d'ouvriers, un bâton sur le dos, un paquet au bout du bâton. Ils firent à pied les 35 kilomètres qui les séparaient de Veldenz, où se trouve le vieux château de deux ponts, ou plutôt les ruines des vieux châteaux.
Pas de description.
Et tous les jours, ils restèrent cachés dans une forêt avoisinante. La nuit d'après, ils s'approchèrent des anciens remparts. Là, Hermann ordonna à son domestique de l'attendre et il escalada les murs à l'endroit d'une brèche nommée la brèche au loup. Une heure et plus tard, il revenait. La semaine suivante, après des nouvelles pérégrinations, il retournait chez lui, à Dresde. L'expédition était finie.
Et le but de cette expédition ?
Le grand-duc n'en souffla pas un mot à son domestique. Mais celui-ci, par certains détails, par la coïncidence des faits qui se produisirent, put reconstituer la vérité, du moins en partie.
Allez vite, Stenveig, le temps presse maintenant et je suis avide de savoir.
15 jours après l'expédition, le comte de Waldemar, officier de la garde de l'empereur et l'un de ses amis personnels, s'est présenté chez le grand-duc accompagné de 6 hommes. Il resta là toute la journée, enfermé dans le bureau du grand-duc. À plusieurs reprises, on entendit le bruit d'altercations, de violentes disputes. Cette phrase même fut perçue par le domestique qui passait dans le jardin sous les fenêtres. « Ces papiers vous ont été remis, Sa Majesté en est sûre. Si vous ne voulez pas me les remettre de votre plein gré !» Les restes de la phrase, l'essence de la menace et de toute la scène d'ailleurs, se devinent aisément par la suite. La maison d'Hermann fut visitée des fonds en comble. Mais c'était illégal. C'eût été illégal si les grands ducs s'y fût opposé. Mais il accompagna lui-même les comtes dans sa perquisition.
Et que cherchait-on? Les mémoires du chancelier?
Oh, mieux que cela. On cherchait une liasse et des papiers secrets dont on connaissait l'existence par des indiscrétions commises et dont on savait de façon certaine qu'ils avaient été confiés au grand-duc Hermann.
Lupin était appuyé des deux coudes contre le grillage et ses doigts se crispaient aux mailles de fer. Il murmura, la voix émue, des papiers secrets et très importants sans doute.
Oh, de la plus haute importance. La publication de ces papiers aurait des résultats que l'on ne peut prévoir, non seulement au point de vue de la politique intérieure, mais au point de vue des relations étrangères.
Oh, est-ce possible? Et quelle preuve as-tu?
Quelle preuve? Les témoignages même de la femme du grand-duc, les confidences qu'elle fit au domestique après la mort de son mari.
En effet, c'est le témoignage même du grand-duc que nous avons.
Mieux encore.
Quoi?
Un document écrit de sa main, signé de sa signature, et qui contient la liste des papiers secrets qui lui furent confiés.
En deux mots,
c'est impossible. Le document est long, entremêlé d'annotations, des remarques quelquefois incompréhensibles. Que je vous cite seulement deux titres qui correspondent à deux liasses des papiers secrets. Lettre originale du Kronprinz à Bismarck. Les dates montrent que ces lettres furent écrites pendant les 3 mois de règne de Frédéric III. Pour imaginer ce que peuvent contenir ces lettres, rappelez-vous la maladie de Frédéric III, ses démêlés avec son fils,
oui, je sais, et l'autre titre.
Photographie des lettres de Frédéric III et de l'impératrice Victoria à la reine Victoria d'Angleterre.
Il y a cela?
Écoutez, les annotations du grand-duc. Texte du traité avec l'Angleterre et la France. Et ces mots un peu obscurs. Alsace et Lorraine, colonie, limitation navale.
Il y a ça? Et c'est obscur, dis-tu? Des mots éblouissants, au contraire.
Oh, est-ce possible?
On n'entre pas, je suis occupé. On frappa à l'autre porte, du côté de Steinweg.
Un peu de patience, j'aurai fini dans 5 minutes.
Il dit au vieillard d'un ton impérieux. Sois tranquille et continue. Alors, selon toi, l'expédition du grand-duc et de son domestique au château de Veldenz n'avait d'autre but que de cacher ses papiers.
Le doute n'est pas admissible.
Soit, mais le grand-duc a pu les retirer depuis.
Nein, il n'a pas quitté Dresde jusqu'à sa mort.
Mais les ennemis du grand-duc, ceux qui avaient tout intérêt à les reprendre et à les anéantir, ceux-là ont pu les chercher là où ils étaient, ces papiers.
Leur enquête les a menés en effet jusque-là.
Comment le sais-tu?
Vous comprenez bien que je ne suis pas resté inactif et que mon premier soin, quand ces révélations m'eurent été faites, fut d'aller à Veldenz et de me renseigner moi-même dans les villages voisins. Or, j'appris que 2 fois déjà, les châteaux avaient été envahis par 12 d'hommes venus de Berlin et accrédités auprès des régents.
Eh bien,
ils n'ont rien trouvé, car depuis cette époque, la visite du château n'est pas permise.
Mais qui empêche d'y pénétrer?
Une garnison de 50 soldats qui veillent jour et nuit.
Des soldats du grand-duché?
Nein, des soldats détachés de la garde personnelle de l'empereur.
Des voix s'élevèrent dans le couloir, et de nouveau l'on frappa, en interpellant le gardien-chef.
Il dort, monsieur le directeur.
Ouvrez, je vous ordonne d'ouvrir.
Impossible. La serrure est mêlée. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de pratiquer une incision tout autour de la dite serrure.
Ouvrez.
Et le sort de l'Europe que nous sommes en train de discuter? Qu'est-ce que vous en faites?
Il se tourna vers le vieillard. De sorte que tu n'as pas pu entrer dans le château?
Nein.
Mais tu es persuadé que les fameux papiers y sont cachés?
Voyons, ne vous ai-je pas donné toutes les preuves? N'êtes-vous pas convaincu?
Si, si, si. C'est là qu'ils sont cachés. Il n'y a pas de doute, c'est là qu'ils sont cachés. Il semblait voir le château. Il semblait évoquer la cachette mystérieuse. Et la vision d'un trésor inépuisable, l'évocation de coffres emplis de pierres précieuses et de richesses, ne l'aurait pas ému plus que l'idée de ces chiffons de papier sur lesquels veillait la garde du Kaiser.
Quelle merveilleuse conquête à entreprendre! Et combien digne de lui! Et comme il avait, une fois de plus, fait preuve de clairvoyance et d'intuition en se lançant au hasard sur cette piste inconnue.
Dehors, on travaillait la serrure. Il demanda au vieux Steinweg:
« De quoi le grand-duc est-il mort ?»«
D'une pleurésie, en quelques jours. C'est à peine s'il a pu reprendre connaissance. Et ce qu'il y avait d'horrible, c'est que l'on voyait, paraît-il, les efforts inouïs qu'il faisait entre deux accès de délire pour rassembler ses idées et prononcer des paroles. De temps en temps, il appelait sa femme, la regardait d'un air désespéré et agitait vainement ses lèvres.
Bref, il parla,
dit brusquement Lupin, que le travail fait autour de la serrure commençait à inquiéter.
Nein, nein, il ne parla pas. Mais dans une minute plus lucide, à force d'énergie, il réussit à tracer des signes sur une feuille de papier que sa femme lui présenta.
Eh bien, ces signes?
Indéchiffrables pour la plupart.
Pour la plupart, mais les autres? Les autres?
Il y a d'abord trois chiffres parfaitement distincts. Un 8, un 1 et un 3.
813, oui, je sais. Après?
Après, des lettres, plusieurs lettres, parmi lesquelles il n'est pas possible de reconstituer en toute certitude qu'un groupe de trois et immédiatement après un groupe des deux lettres.
Apoun, n'est-ce pas?
Ah, vous savez!
La serrure s'ébranlait. Presque toutes les vis ayant été retirées, Lupin demanda, anxieux soudain à l'idée d'être interrompu.
De sorte que ce mot incomplet, Apoun, et ce chiffre 813, sont les formules que le grand-duc léguait à sa femme et à son fils pour leur permettre de retrouver les papiers secrets.
Ya.
Lupin se cramponna des deux mains à la serrure pour l'empêcher de tomber.
« Monsieur le directeur, vous allez réveiller le gardien-chef. Ce n'est pas gentil. Une minute encore, voulez-vous ? »
Steinweg, qu'est devenue la femme du grand-duc ?
« Elle est morte, et peu après son mari. De chagrin, pourrait-on dire. »
Et l'enfant fut recueilli par la famille.
« Quelle famille ? Le grand-duc n'avait ni frère ni sœur. En outre, il n'était marié que morganatiquement et en secret. Non, l'enfant fut emmené par le vieux serviteur d'Hermann, qu'il éleva sous le nom de Pierre le Duc. C'était un assez mauvais garçon, indépendant, fantasque, difficile à vivre. Un jour il partit, on ne l'a pas revu. »
Il connaissait le secret de sa naissance?
Ya. Et on lui montra la feuille des papiers sur laquelle Hermann avait écrit les lettres et les chiffres 813 et etc.
Et cette révélation, par la suite, ne fut faite qu'à toi?
Ya.
Et toi, tu ne t'es confié qu'à M. Kesselbach?
Oh, à lui seul. Mais par prudence, tout en lui montrant la feuille des signes et des lettres, ainsi que la liste dont je vous ai parlé, j'ai gardé ces deux documents. L'événement a prouvé que j'avais raison.
Et ces documents, tu les as?
Ya.
Ils sont en sûreté?
Absolument.
À Paris?
Nein.
Tant mieux. N'oublie pas que ta vie est en danger et qu'on te poursuit.
Je le sais. Au moindre faux pas, je suis perdu.
Justement. Donc prends tes précautions, dépiste l'ennemi, va prendre tes papiers et attends mes instructions. L'affaire est dans le sac. D'ici un mois au plus tard, nous irons visiter ensemble le château de Veldenz.
Si je suis en prison?
Je t'en ferai sortir.
Et c'est possible?
Le lendemain même du jour où j'en sortirai. Non, je me trompe. Le soir même, une heure après.
Vous avez donc un moyen?
Depuis 10 minutes, oui, et infaillible. Tu n'as rien à me dire?
Nein.
Alors j'ouvre. Monsieur le directeur, je ne sais comment m'excuser. Il n'acheva pas. L'irruption du directeur et de 3 hommes ne lui en laissa pas le temps. Monsieur Borelli était pâle de rage et d'indignation. La vue des 2 gardiens étendus le bouleversa.
Mort?
Mais non. Et tenez, celui-là bouge. Et parle donc, animal.
Mais l'autre?
Reprit Monsieur Borelli en se précipitant sur le gardien-chef. Endormi seulement, monsieur le directeur. Il était très fatigué, alors je lui ai accordé quelques instants de repos. J'intercède en sa faveur. Je serai désolé que ce pauvre homme...
Assez de blagues.
Et s'adressant au gardien, qu'on le reconduise dans sa cellule. En attendant,
quant à ce visiteur...
Lupin n'en sut pas davantage sur les intentions de Monsieur Borelli par rapport au vieux Steinweg. Mais c'était pour lui une question absolument insignifiante. Il emportait dans sa solitude des problèmes d'un intérêt autrement considérable que le sort du vieillard. Il possédait le secret de M. Kesselbach.